Christine Chivalon, anthropologue, directrice de recherche au CNRS, éminente spécialiste de la Caraïbe, autrice d'un des plus beaux livres sur la diaspora.
Ah, mais c'est gentil. Mais toi, tu es autrice d'un très joli livre sur l'autodéfense que...
Commence pas à perdre du temps.
Ah, ouais, je vais en perdre. De toute façon, j'ai un temps élastique. Hein. Je vais m'intéresser avec vous à l'imaginaire colonial et aux violences qui le caractérisent. Je vais peut-être être un peu ennuyeuse parce que je vais rester rivée à mon papier pour ne pas perdre de temps, parce que je perds beaucoup de temps. Donc, le terme d'imaginaire me gêne toujours parce que cette notion, je trouve qu'elle adoucit l'ordre social, elle le rend fluctuant, contingent, et elle fait plutôt appel à des formes d'utopie. L'imaginaire, c'est toujours quelque chose de, ouais, d'utopique. Et... Donc, moi, je pense que c'est plutôt cet imaginaire qui fait appel à des dystopies oppressantes. Et curieusement, c'est toujours les dystopies qui arrivent à s'incarner, qui arrivent à devenir « réelles », entre guillemets, par le principe d'objectivation dans la matière, dans l'espace, dans les corps, et qui arrivent, ces dystopies, elles arrivent à enfermer les vies humaines dans des destins tragiques. Et bien sûr, l'esclavage est l'un de ces imaginaires sociaux qui instaure un ordre profondément inégalitaire et coercitif, qui repose sur la séparation des êtres humains entre ceux qui sont conçus comme appartenant à l'humanité pendant l'esclavage hein, et ceux qui en sont exclus, constat qui est toujours valable en dépit de subtilités de lecture très récentes d'historiens qui en feraient un nouvel exemple du principe humaniste, ce code noir, hein, c'est devenu... donc le lieu d'un nouvel humanisme au cœur de l'esclavage, parce qu'on y voit le fait que les esclaves sont avant tout des personnes humaines et qu'il y a une différence, je ne vais pas rentrer dans le débat trop technique, hein, entre la qualité juridique, etc., et la personne. Donc c'est lectures qui ont fait l'objet de vives réactions à la Guadeloupe. Donc je pense qu'il n'est pas inutile de répéter que l'édifice esclavagiste repose sur une vision du monde complètement préoccupée à tracer des frontières entre le sauvage et le civilisé pour asseoir un mode d'exploitation inédit. Et c'est en plein essor de la pensée des Lumières et de l'idéologie du progrès, comme vous le savez, que cette institution, dont les principes perdureront bien au-delà du XIXe siècle, comme on l'a dit tout à l'heure, qui montre que la modernité occidentale, à l'encontre des théories nouvelles depuis 25-30 ans qui inondent notre paysage académique, je veux parler des théories latouriennes, cette modernité n'a pas toujours imaginé le rapport entre l'humain et le non-humain, selon une tradition rationnelle qu'on lui prête, qui serait basée sur la dualité nature-culture. Et Latour prétend, c'est le titre de son ouvrage de 91 ou 92, « Nous n'avons jamais été modernes », et pourtant, c'est certainement pas au regard de la limite poreuse qu'il conçoit entre humain et non-humain, mais que prévaudrait ce principe. Mais le principe, selon moi, qui fait que nous n'avons jamais été modernes, c'est qu'il existe au sein de l'humain des processus de déshumanisation qui n'ont jamais intéressé Latour et qui pourtant aiderait à une autre théorisation peut-être de l'humain et du non-humain. La domination des esclaves et le racisme anti-noir aux Amériques sont entièrement redevables de cette invention de limites anciennes entre ces univers où se tiennent les colons et leurs esclaves. Et je dis racisme anti-noir, et je me permets encore une incise, on devrait dire racisme anti-nègre, parce qu'il y a aussi là encore un nouveau débat, enfin il date un peu, pour toutes ces spéculations historiennes que l'on trouve et dont on a eu un exemple à notre dernière journée d'études sur le fait que la notion de race noire, en fait, elle n'aurait pas existé pendant l'esclavage. Alors donc, il n'y aurait pas eu c'est quasi pas de racisme. Donc, il y a le terme nègre. Et le terme nègre, lui, il existe dès la promulgation du Code noir et en 1685 pour qualifier les esclaves des Amériques et leur assigner le statut de chose ou de bien meuble. Et c'est en même temps que commence aussi le processus de déshumanisation. Alors, ces frontières entre les mondes humains et non humains, je voudrais les comprendre comme le résultat de cette violence constitutive qui rend possible la domination des corps. Et je vais prendre appui sur une insurrection dont je parlais tout à l'heure, l'insurrection de 1870, puisque 1870 à la Martinique, au moment de la proclamation de la Troisième République, parce qu'au cours de ces événements, les insurgés, anciens esclaves ou descendants d'esclaves, vont procéder au massacre d'un planteur blanc connu localement pour ses positions en faveur du rétablissement de l'esclavage. C'est une scène de violence extrême, telle qu'elle est relatée dans les actes du procès qui a suivi l'insurrection en 1871 et qui traduit les représentations des rapports entre les groupes, anciens esclaves, anciens maîtres. Cette scène va montrer combien l'animalisation est au cœur du processus d'assignation des attributs humains et non humains. Et pour que le meurtre soit possible, il faudra que les insurgés renversent les codes, s'approprient ceux du colon et exercent à leur tour, le temps de cet acte transgressif, la toute-puissance du maître. Ce renversement, on va le voir, ne va être possible qu'au travers d'actes et de discours référencés par rapport à l'univers sauvage et animalier. Avant d'être massacré, par différents gestes et paroles, le planteur va se trouver effectivement transformé en animal. Et cette transformation reproduit le principe selon lequel l'assujettissement du corps de l'autre appelle le recours aux représentations les plus dépréciatives pour s'établir. C'est en effet le répertoire symbolique relatif à l'animal sauvage ou domestique qui autorise les pratiques de barbarie ou de bestialité à l'encontre de ceux situés dans le hors-monde humain. Les protagonistes de cette scène insurrectionnelle sont en grande majorité des cultivateurs, ouvriers agricoles. Alors, ils sont soit anciens esclaves, soit descendants d'esclaves. Ils peuvent avoir été esclaves jusqu'en 1848 et leurs conditions sont pour la plupart d'entre eux restées quasi inchangées depuis 22 ans qui les séparent de l'abolition. Et cette politique n'a pas ébranlé les fondements structurels de la société esclavagiste au point que Victor Schoelfer, l'abolitionniste, célèbre abolitionniste, a décrit cette période comme celle d'un quasi-retour à l'esclavage. Alors je vais m'intéresser maintenant qu'à l'événement au cours duquel le planteur est assassiné collectivement de manière quasi-rituelle et je ne vais pas développer les éléments contextuels de cette révolte. La raison principale, elle est simple. C'est dans les inégalités qui perdurent et le profond clivage racial qui est espéré être aboli par la proclamation de la Troisième République. Et j'ai écrit un texte d'ailleurs dont le titre était « Plus républicain que la République », tellement que l'abolition des hiérarchies raciales était attendue. Alors pourtant, les autorités coloniales et les planteurs appellent au respect de l'ordre, au respect du régime de travail, et celui de la propriété, tels qu'ils ont été, tels qu'ils sont encore et tels qu'ils doivent rester. Le planteur du nom de Codé réside dans la commune où la révolte va éclater. Il est ouvertement conservateur parce qu'il arbore sur son habitation, c'est la plantation aux Antilles françaises, un drapeau blanc, signe de ralliement aux esclavagistes. Il a été impliqué dans diverses affaires successives préjudiciables aux Noirs, et il va donc polariser tous les affects qui se nouent pendant ce moment de perturbation intense des régulations de la société post-esclavagiste. La scène du massacre du planteur, que je vais vous décrire, pour la décrire, les matériaux proviennent des actes du procès et des témoignages des descendants, des protagonistes de cette scène que j'ai pu rencontrer, retrouver, d'abord retrouver parce qu'il n'était pas connu, mais vous allez comprendre pourquoi. Et donc, au cours des années, entre 2000 jusqu'à 2009, j'ai rencontré des descendants, enfin, qui portent maintenant le nom de descendants d'insurgés. Ils n'étaient pas connus, bien sûr, sous ce terme-là, jusqu'à ces années, donc 2000-2010. Alors, la cruauté de la mise à mort du planteur Codé est aujourd'hui telle qu'elle continue de marquer les esprits des descendants qui, à l'intérieur d'un univers, d'un espace moral forcément différent, assemblent aujourd'hui très difficilement cet acte de tuerie avec la figure de leurs aïeux. Et aïeux qu'ils avaient eu à cœur de ré-héroïser, parce qu'ils avaient été dé-héroïsés par le traitement de la révolte. Et là, je ne peux pas entrer dans les détails trop, mais juste dire que quand j'ai ramené les actes du procès qui se trouvaient à la BNF, quand je les ai ramenés à la bibliothèque locale, les fameux descendants d'insurgés ont lu, je les avais amenés puisqu'ils n'y étaient pas, ils n'étaient pas dans les lieux où ça s'est produit, et je me souviens d'une interlocutrice qui en était bouleversée par l'acte de tuerie et de massacre, alors que son aïeul même n'y était pas présent sur les lieux, donc il y a eu aussi du décryptage, mais pour vous dire, dans la temporalité des valeurs accordées au massacre, aux tueries, etc. Il faut insister sur le fait que même si je ne voudrais pas trop m'attarder là-dessus, c'est, et ça rejoint la discussion qu'on a eue avec Benjamin Stora, les membres du tribunal militaire de l'époque ont utilisé ce meurtre comme moyen de transfigurer la révolte en une affaire criminelle et faisant du même coup disparaître de l'histoire officielle martiniquaise et française cette révolte en tant que tentative de révolution contre l'injustice de la société coloniale. Personne ne connaît cette insurrection. Elle va rester dans les mémoires locales, résultat du traitement réussi, comme sous le nom d'affaire Codet. Et je fais encore une insulte très brève pour dire qu'à la même époque, 1865, il y a une insurrection exactement de la même ampleur, l'insurrection de Morant Bay à la Jamaïque, qui, elle, est devenue un symbole. Il n'y a pas un historien d'empire colonial britannique qui ne connaît pas Morant Bay, qui est censé instaurer un nouveau régime de relations raciales. Et effectivement, c'est la même chose avec l'affaire Codet, l'insurrection du Sud, qui instaure effectivement un nouveau régime de relations raciales, mais qui, passant par l'invisibilisation, donne le résultat de ne pas se voir. Donc, cette affaire Codet, elle va être construite comme démontrant la barbarie et la monstruosité de sauvages sanguinaires, fardeau que vont porter les générations successives liées aux insurgés, et stigmatisés jusqu'à récemment encore, hein, dernier témoignage 2010, comme des fils d'assassins. Alors, je veux juste dire que cette révolte de 1870 forme, comme je viens que de le dire, le soubassement de ce que j'ai appelé le pacte républicain, qui perdure encore aujourd'hui, à savoir que dans les vieilles colonies se prépare une république particulière. Elle est en train de naître à ce moment précis, qui va s'autoproclamer indifférente à la race sur la base du renforcement de la hiérarchie des races. Et c'est au cours de ce procès, qui pour moi est fondateur, de cette nouvelle république, que sont formulés les premiers termes du discours puissant d'invisibilisation de la race. C'est pourquoi cette révolte est engloutie en tant que conflit entre blancs et noirs et se voit transformée en une affaire criminelle, d'où émerge la figure sacrificielle du planteur blanc, effectivement blanc, et à qui les autorités vont rendre justice face à une poignée de quelques égarés monstrueux. Et Schœlcher lui-même va cautionner cette version de la République généreuse, Schœlcher, père fondateur de la République, hein, cette République généreuse en train de naître, et qui est confrontée comme un accident criminel qui n'attend aucunement cet édifice sociétal. Et là, tout est englouti de cette histoire, et je pense qu'elle est encore à l'œuvre aujourd'hui même. Donc le rapport médico-légal qui est dressé après la mort de Codet va décrire très précisément le nombre de blessures, leur localisation, la taille, la profondeur, et conclure, je cite, que les plaies sont au nombre de 43, dont 8 mortelles, et que les diverses sections ont dû être faites soit avec un coutelas, soit avec une hache, et dans tous les cas avec un instrument à forte lame et avec la coopération de 3 ou 4 assassins au moins. Les quelques informations contenues dans ce rapport étayent les propos tenus tout au long du procès selon lequel le corps aurait été mutilé et supplicié. Cependant, le médecin, ayant estimé que les causes de la mort ne faisaient aucun doute, a jugé inutile de faire une autopsie et ne va pas livrer plus de détails que des plaies concernant les plaies. Et on ne va pas savoir à travers ce rapport si ce qui revient comme un leitmotiv dans les témoignages, l'émasculation a vraiment été pratiquée. La polarisation de ce rapport médical sur des aspects quasi techniques contraste avec tout le discours fortement émotionnel qu'il y a durant le procès relatif à la barbarie et qui fait qu'il y a un évitement de la description des mutilations et qui pourrait indiquer la pudeur qui s'instaure comme code moral au cours du XIXe siècle en France et qui marque une rupture dans cette histoire des sensibilités qu'a dressé Alain Corbin et les périodes antérieures propres au temps moderne étant vues notamment comme l'immense jardin des massacres et des supplices. L'économie morale du XIXe siècle, c'est le massacre devient véritablement acte absolu de barbarie. Il faut éviter de justifier les agissements des insurgés. Il n'y aura aucune référence, aucune information sur leurs conditions de vie. Les conditions extrêmes de la mort de Codet sont détachées de cette réalité inhumaine de l'histoire locale. Il faut surtout convaincre, tout au long du procès, d'une société neuve qui serait née après l'abolition. Et l'accomplissement du meurtre ne semble se comprendre pourtant qu'à travers la codification propre à l'esclavage et aux classifications imaginées par le colon. Les deux jours qui précèdent la tuerie, comme le crime lui-même, sont l'occasion de ramener la figure du planteur, la figure de Codet, à un état d'animalité. Il est d'abord contraint à errer il est poursuivi, à se cacher dans les halliers aux confins des plantations. On le retrouve presque nu, seulement couvert d'un pantalon ensanglanté, y compris ceux qui le protègent, parce qu'il y aura des personnes de son entourage noir à le protéger, vont participer à cette dégradation. On porte, dit-on, à manger à Madame Caudet dans les champs de caféiers où elle est cachée en couvrant les aliments sous des ordures afin de faire croire qu'il s'agit de nourriture destinée aux cochons. La déchéance que se prête tout particulièrement à incarner le cochon au travers de la nourriture ingurgitée ou de la tanière sordide où est caché le planteur appartient aux souvenirs qui sont rapportés aujourd'hui encore les plus vifs et les plus récurrents qui restituent les descendants et qui montrent et qui sont présents aussi dans les actes du procès. Mais mon but n'était pas de comparer les propos, les affirmations du procès avec les témoignages d'aujourd'hui, mais il se trouve que la figure du cochon est effectivement présente dans les actes du procès et revient très régulièrement aujourd'hui. Donc ces témoignages établissent comme un lien entre la transformation animale et l'acte fatal qui lui succède. Alors, je cite un de ces témoignages. « Il y a quelqu'un qui avait pitié de lui, qui lui portait à manger comme des cochons. Il y avait tellement de personnes qui le cherchaient. Il était au bas du bois, et je crois que le monsieur venait lui porter le manger cochon dans un bol. On l'avait trouvé caché dans un parc à cochons, relativement loin de la maison. On l'a ramené, on l'a exécuté. » Dans les descriptions donc, qui sont livrées au cours des actes du procès, on entrevoit qu'il faut que le béquet, c'est-à-dire le blanc, le descendant du colon, ne soit plus l'homme blanc, mais une bête. Les insurgés conviennent ainsi d'aller à la chasse de Caudet. Une fois le planteur découvert, on lui extirpe violemment ses bottes pour confirmer cet état bestial et le fait d'avoir à se déplacer pieds nus s'avérant pourvu d'une forte connotation avilissante. Louis Gertrude, c'est, je cite, a retiré alors de sa poche de son pantalon son canif, a fendu les bottes de M. Caudet en lui disant « Tu marcheras pieds nus, sacré misérable ». Sacré cochon. On entend dire qu'il est temps que les béquets, eux aussi, traversent les rivières à pied. Traverser à pied, c'est quelque chose de... le blanc ne peut pas être dénudé. Donc dénuder le corps, le priver de ses attributs artificiels, le ramener à ses fonctions primaires et végétatives au plus près d'une nature éloignée de la maison coloniale, telle est l'équation qui se résout dans le moment qui précède le meurtre. Ce n'est qu'à la condition de cette mutation que le massacre pourra s'accomplir. Et la mutation va s'opérer, effectivement, puisque la figure du béquet n'apparaît plus que comme celle d'un cochon. Ce cochon de Caudet, on l'appelait ce cochon de Caudet, comme il l'est dit plusieurs fois dans les actes. On rapporte qu'une femme voulait trouver un autre planteur blanc pour lui couper, je cite, un morceau de sa gueule pour le rôtir et le manger. Il est question de saler le cadavre de Caudet, comme on sale à l'époque les pièces de bestiaux, et le bœuf, cochon, cabri. Le corps doit être arrosé d'eau pimentée, geste attesté par l'état des plaies dont le corps est couvert. Il est dit d'une autre femme qu'elle a été vue sur les lieux du crime avec une calebasse contenant du sel et du piment destiné à saler le cadavre. On veut couper les corps des blancs, comme on débite les bêtes. Nous voulons, je cite, couper les tétés de Madame Perrier et les oreilles de Monsieur Caudet. Bref, on est au plus près ici de la symbolique et de l'imaginaire colonial qui vont se voir bouleversés pour préparer le passage à l'acte criminel qui n'en sera plus un, parce que via cet imaginaire, l'abattage ne concerne plus l'homme, mais l'animal. Jusqu'à cette transfiguration, dont les insurgés vont régler le sens, les limites entre l'animal et l'humain sont celles fixées par la suprématie blanche. Il s'agit de deux mondes séparés, où seule la race blanche est conçue comme dotée du suprême caractère humain. Et dans la sphère animale, on ne sait plus très bien qui de l'homme, femme noire, ou de l'animal, est le plus susceptible de se rapprocher de cette limite infranchissable de l'humain. Les actes du procès sont ponctués, et c'est très curieux, il faut vraiment... je ne rentre pas dans les détails pour traiter ces actes, les mettre vraiment découper les petits morceaux qui parlent de telle et telle chose, et pour voir ramener entrevoir très souvent l'importance attribuée aux bêtes dans cet univers qui est essentiellement rural, mais aussi le statut de ces bêtes qui est confondu à celui des êtres esclaves colonisés. Et du même coup, mêlé à des significations incertaines, où on ne sait plus ni bête ni homme. Par exemple, on ne tue pas les bœufs, on les assassine. Comme si la bête s'approchait elle-même de la frontière décisive. On se préoccupe plus durant le procès de savoir qui a cassé la jambe, et non pas la patte, d'un bœuf, d'un planteur. on s'en préoccupe plus que de connaître l'état de ceux qui se révoltent. L'animal, quand il appartient au planteur blanc, se charge d'une sorte de sacralité qui le fait être parfois au-dessus de l'esclave ou de son descendant, comme prolongement muet de la présence du blanc dans la sphère non humaine. Des accusés chercheront par exemple à prouver leur innocence en ayant sauvé des animaux appartenant au béquet, comme si l'animal avait une valeur bien plus grande que leur propre existence. C'est pour cette raison que l'on assassine les bêtes et qu'elles finissent par être quasi humaines quand elles appartiennent aux colons et qu'elles en deviennent son équivalent dans l'acte de violence extrême. Et voici ce que rapporte un insurgé, et je pense que c'est là, donc voilà, on a tué Codé. Allons prendre les bœufs de Garnier, un autre blanc béqué. Ils se sont emparés d'un bœuf. Ils sont tous descendus près de la rivière. Ils ont assassiné un bœuf qu'ils ont débité et chacun a pris son morceau. Ce complexe aux significations poreuses entre bêtes et humains noirs ne fait que rendre plus nette et plus dure la séparation entre les blancs et les noirs. Il est possible de reconnaître ici la configuration décrite déjà en 2000 par Achille Bembé, puisque Bembé définissait déjà la colonisation comme le processus d'animalisation du colonisé ou de l'esclave. Et ce processus s'appuie aussi sur la distinction qui va permettre les distinctions que tu as déclinées ce matin entre l'animal sauvage et l'animal domestique. L'esclave et celui qui lui succède sous le Second Empire appartiennent à l'univers domestique du colon, au terme de procédures et de techniques où il faut d'abord concevoir l'ensauvagement de l'autre dans une altérité radicale pour mieux comprendre sa domestication, à savoir l'appropriation de l'animal, sa familiarisation avec l'homme colon et son utilisation par lui, d'où ces hiérarchies qui feront le domestique à la maison, l'esclave des champs, etc. Toute l'épistémologie du colonialisme, c'est Bembé qui nous le dit, repose sur une équation fort simple. Il n'y a guère de différence entre le principe indigène et le principe animal, et c'est ce qui justifie la domestication du colonisé. L'animalisation, elle est généralement vue comme une constante dans les pratiques de violence extrême, comme celles qui procèdent au massacre, ritualisé ou non. Il faut déshumaniser la victime. Et à propos des supplices du XVIe siècle, dans les guerres de religion, toujours Alain Corbin parle de violence d'animalisation, destinée à démasquer la bête. Dans des expressions plus récentes de violence guerrière, comprenant les actes génocidaires, Monder Kilani, lui, considère que le recours à la figure animale de l'ennemi est comme, pour le sacrifice traditionnel, une règle sémantique, nous dit-il, un passage quasi obligé qui est au principe de la pratique humaine de l'inhumanité. Et dans les sociétés esclavagistes, il est facile de comprendre que ce niveau de généralité des imaginaires de la violence des massacres humains se complique. Parce que l'animalisation qui s'accomplit au cours de l'insurrection et qui débouche sur le supplice du planteur n'épouse pas ce seul trajet de la logique guerrière qui fabrique l'ennemi en objet déshumanisé pour mieux le détruire. Il y a en jeu bien d'autres résonances, et celle d'un renversement de l'ordre inscrit au plus profond des corps asservis. Et c'est là que je voulais dire que ces propos d'un homme qui sont rapportés au cours du procès condensent, d'après moi, toutes les significations qu'il y a à lire dans cet acte de tuerie. Il dit « Je trouvais là un homme couché sur une natte ». Au bout d'un moment, c'est quelqu'un qui témoigne, qui voit un homme couché sur une natte, et au bout d'un moment, cet homme s'écria « Depuis 22 ans, les nègres et les mulâtres portent le bas comme les chevaux et les mulets, mais aujourd'hui, ce n'est plus cela. » C'est-à-dire que l'acte de révolte s'est bien fait pour rompre cette logique des nègres et des mulâtres qui portent les bas comme des chevaux. Avec le meurtre de Codé, les règles sémantiques du massacre sont supplantées par la conscience diffuse des catégories artificielles que l'édifice esclavagiste avait imaginé pour assurer sa pérennité. En mettant Codé à la place de l'animal, en le faisant devenir cet homme déshumanisé, c'est tout autant la condition de sa destruction qui se réalise que la destruction même de cet imaginaire colonial qui ne tient pas. Ceux assignés jusqu'ici à n'être que des bêtes perçoivent le caractère faux des limites qui les ont dépossédés de leur être pour les faire devenir des choses. L'inhumanité de l'acte endosse le paradoxe de proclamer l'humanité des choses vivantes de cet univers domestique fabriqué par le colon. Et on connaît bien désormais au sein d'une littérature quand même, assez récente quand même, ce procès de chosification et d'animalisation propre au système esclavagiste, dont je te citais Elsa pour ta thèse, enfin dans ton livre sur la matrice de la race quand tu parles du tempérament, cette constitution physiopathologique qui était devenue à partir du XVIIIe siècle l'instrument efficace pour naturaliser les divisions au sein de l'espèce humaine. Et dans la définition de ces tempéraments, le recours au registre animalier est largement convoqué, comme témoigne l'approche survirilisée des Noirs, auxquels sont attribuées des qualités physiques vigoureuses, je vais aller vite, renvoyant à la virilité animale, je te cite, d'une bête de somme. De son côté, Grégoire Chamaillou a montré comment le pouvoir colonial, alors qu'il repose sur le postulat d'une division stricte entre des colons-personnes et des esclaves-choses, pour lesquels il n'y a pas d'essence commune, devait résoudre une drôle d'équation dès que les corps colonisés étaient utilisés à des fins d'expérimentation médicale concernant les êtres humains. Car la médecine coloniale ne se privera pas de ce réservoir de corps ramenés à leur seul état biologiquement vivant pour pratiquer des essais d'inoculation, de tester des techniques chirurgicales ou encore mener des études physiologiques ou raciologiques. Mais pour que ces corps servent de double à ceux des Blancs, pour pouvoir transposer les résultats de l'un à l'autre, il s'agira de mobiliser ce qui est au fondement de la méthode médicale, à savoir le présupposé de l'analogie. Il n'y a donc pas d'obstacle technique, méthodologique et encore moins éthique à ce que le colonisé animalisé puisse servir à démontrer des résultats valables pour l'espèce humaine à laquelle il demeure étrangère. Les représentations sur l'animalité dans laquelle les sociétés de plantation tiennent les esclaves sont loin d'être surinterprétées, comme on nous accuse parfois de faire de la surinterprétation. On a de nombreux exemples de la réalité de cette animalité inventée par le colonialisme, et il suffit de mentionner d'emblée combien les catégories raciales s'appuient sur le registre animalier, ce qui est bien connu à propos du terme mulâtre, et tu as toi-même, Elsa, rappelé que celui-ci provient de l'altération portugaise du castillan mulato, ce qui est bien connu, hein, qui désigne un mulet hybride stérile d'un âne et d'une jument, ou d'un cheval et d'une ânesse. Et parmi d'autres exemples de cette taxinomie inspirée du bestiaire colonial, il y a énormément d'exemples. On va encore citer le chabin, qui est très connu, qui aux Antilles françaises désigne une personne à la peau blanche, aux cheveux crépus, terme qui se rapportait à l'origine au croisement entre un bouc et une brebis. Ces identifications improbables où l'animal le dispute à l'humain sont tellement ancrées qu'elles peuvent ressurgir encore aujourd'hui de manière complètement inattendue. Et un de mes interlocuteurs me disait que parce qu'il avait navigué entre deux foyers durant son enfance, celui d'une tante et celui de son père, il était un enfant à moitié. Et un enfant à moitié, ça fait référence tout de suite à un bœuf ou un animal à moitié. Parce qu'on élève les animaux de cette manière en l'achetant à deux pour limiter le coût de l'achat d'un animal. Arlette Gauthier indique que durant le XVIIe siècle, l'expression la plus courante pour désigner les esclaves est celle de bête de charge. De son côté, Jean-Pierre Sainton rappelle qu'il n'est pas rare de voir dans les sources primaires des XVIIe et XVIIIe siècles le mot troupeau pour désigner les esclaves qui étaient confondus au cheptel. Un écrivain, originaire de la commune de Rivière-Pilote, là où habitait Codé, là où a éclaté la révolte, a publié un livre très précis de la trajectoire historique de sa famille qui appartenait au groupe mulâtre, et il rapporte qu'à la fin du XVIIIe siècle, son aïeul, notable de la commune, avait été préoccupé par une affaire domestique, et un de ses esclaves venait de mettre à disposition à l'un des géreurs une belle mulâtresse, on suppose que c'est sa compagne, en récompense de quoi, lui, cet esclave qui avait mis à disposition la belle mulâtresse, et lui et la femme qui avaient fait l'objet de cette transaction, avaient reçu deux bœufs chacun. Et la condition animalisée, c'est celle-là. La valeur de l'être esclave ramenait à une équivalence en nombre de bêtes. Et toute disposition de soi se limite au mieux à pouvoir négocier des échanges en acceptant cette mesure de soi en tête de bétail. Dans ce hors-monde, comme l'appelle Bimbé, le colon dispose de la chose qui l'a déshumanisée. Il peut lui donner de l'affection, comme un aime un animal domestique, ou le traiter de la manière la plus brutale. Le maître exerce la justice domestique sur ses esclaves, nous dit Frédéric Réjean, historien spécialiste des Antilles. Il a le droit de les fouetter, de les enchaîner, sans toutefois les torturer ou les mutiler, sous peine de confiscation. Mais on sait bien que ces peines sont illusoires. De confiscation, il n'y en a pas. Et elles ne menacent pas le maître. Et toujours Réjean qui poursuit que les barbaries plus atroces que celles du fouet ou de la chaîne, sont tenues pour impossibles. En tout état de cause, l'état de domesticité servile et animale trace une limite entre l'humain et le non-humain qui ne permet plus de discernement de ce qu'est la barbarie. pour soulager les esclaves ayant subi le fouet, on recommande toujours de passer sur les plaies sanglantes un mélange de jus de citron, de sel marin et même de piment, ce qui rappelle exactement ce qui a été fait aux planteurs Codé. Donc, ce massacre de Codé proclame de manière convulsive le reflet de la bestialité infligée par l'autre au moyen d'un retournement à l'intérieur des codes de la violence coloniale. Le planteur, dans ce cas, ne pouvait être que bestialisé pour devenir à son tour le corps supplicié des esclaves animalisés. On pourrait dire que les actes de violence extrême des insurgés sont l'exemplification des remarques que formulait Fanon face à la question de la destruction de l'ordre colonial. Fanon disait « pour le coloniser, la vie ne peut surgir que du cadavre en décomposition du colon ». Et ça revient aux questions qu'on se posait ce matin. Achille Bimbé a commenté de manière critique ce terrible paradoxe, et j'en parlais aussi ce matin, de cette violence coloniale où la mort du colon serait vue comme la condition de l'émancipation. Et chez Fanon, la mort représente la figure extrême et paradoxale du politique, puisque dans des contextes de sujétion absolue pour cause raciale, on ne deviendrait soi-même qu'en s'accaparant cette possibilité de donner la mort. Vivre debout pour Fanon reviendrait à domestiquer pour soi cette puissance que l'ennemi cherche à monopoliser. La scène de la mort de Codé, c'est comme une traduction empirique, à mon sens, une anticipation de cette théorie de Fanon. L'animalisation comme la tuerie montre l'appropriation de cette puissance de la domestication monopolisée jusque-là par le planteur. Dans cet espace-temps du massacre où tout se renverse, on est en présence de ce que Fanon pourrait penser être inéluctable pour anéantir le colonialisme, c'est-à-dire pour le coloniser, je le cite, « imaginer toutes les combinaisons éventuelles pour anéantir le colon ». Et la combinaison imaginée ici, c'est celle de l'adoption des codes de la violence coloniale, dénuder le corps de l'autre, le bestialiser, en disposer jusqu'à pouvoir lui donner la mort. C'est la logique selon laquelle, dirait Fanon, le manichéisme du colon produit un manichéisme du colonisé. Ces massacres de planteurs sont revenus régulièrement dans l'histoire martiniquaise. Le dernier, c'est celui du béquet Guy de Fabrique en 1948, la fameuse affaire des 16 de Basse-Pointe. Et ils se déroulent de manière identique, ces massacres, en étant un meurtre collectif qui s'accomplit toujours en assénant plusieurs dizaines de coutelas. Et ce rituel n'est pas canalisé ou institutionnalisé dans le sens où ce sacrifice, tout à la fois humain et bestial, ne s'inscrit dans aucun ordre symbolique établi et encore moins contrôlé. Nous n'avons pas affaire ici à l'équivalent de rituels religieux comme les abords de Philippe Bro quand le système sacrificiel vient jouer un rôle pacificateur pour exorciser la violence interne au groupe et la rediriger vers une victime. Rien de tel avec l'insurrection martiniquaise. Le massacre est éclatement du conflit. Si le rituel de mort du planteur continue de partager des caractéristiques avec les pratiques sacrificielles anciennes, en étant un moyen de reconsolider le collectif autour d'un acte transgressif de violence, il reste avant tout paroxysme et catharsis. Il est une contre-violence, on pourra y revenir, du colonisé, dépendant du règne de la violence du colonisateur, comme pourrait le dire Fanon, puisque je reprends ces termes. Il ne laisse s'exprimer le corps social blessé qu'au travers du prisme de la violence imposée, à travers les codes de la bestialité imaginés par le colon, durant ce moment extrêmement éphémère en définitive, d'une journée de mise à mort. Alors pour conclure, je voudrais faire deux remarques. La première, elle est directement liée à mon propos et au propos de cette journée. Elle s'intéresse à cette violence comme contre-violence. Alors je suis tout à fait d'accord pour discuter le terme, mais moi j'utilise énormément le contre dans mes travaux et je vais te faire hurler pour te... Tu vas voir pourquoi je l'utilise. Il montre l'incorporation des codes du colon jusqu'à fournir la grammaire du massacre par leur appropriation. Et je dirais, pour donner du débat, qu'on est dans la configuration que tu décris dans la fabrique des corps des armées, cette fabrique par le pouvoir esclavagiste. Elle se traduit par l'impossibilité de l'action réciproque à armes égales. Elle alimente un fantasme de la lutte réprimée jusqu'à ce que ces formes fantasmées restent clandestines, symboliques ou détournées, comme dans les danses de combat des Antilles, en viennent à exploser et à devenir, je te cite, une autodéfense sans modalité de préservation de soi qui annonce une entrée dans la lutte défensive où la peur de la mort ne constitue ni une limite, ni même un nœud dialectique. Et là, je suis entièrement d'accord avec toi et j'aurais aimé décrire le cas de ces hommes qui tuent Codé jusqu'à... Ils veulent la mort en le tuant. Il y a un des protagonistes en particulier. Donc il s'agit à mon sens ici de véritables contre-violences comme modalité de renversement et non plus de détournement, même si elles doivent n'occuper qu'un espace-temps, comme je le disais, éphémère. À travers la scène du massacre du planteur, on voit quand même que l'incorporation des codes n'est jamais totale et que c'est précisément la conscience critique de l'arbitraire de leur assignation qui fournit le principal motif de la transgression macabre. Le colon ne peut fabriquer, et c'est là que je vais te faire hurler, un habitus complet. Une adéquation ou une concordance entre l'être esclave et son double, qui serait l'animal. Et c'est pour cette raison que moi j'utilise la notion de contre-habitus, qui convient mieux pour discerner ces creux, ces niches de soi préservées, où la volonté du colon ne pourra jamais devenir totale. Et je pense qu'il n'y a pas justement cet anéantissement total des subjectivités. Il y a toujours à l'œuvre cette conscience, il n'y a pas possibilité de concordance parfaite et de concordance. Donc, cette concordance qui ne peut jamais devenir totale, elles ont affaire avec l'humain, avec sa capacité représentationnelle, qui, à n'importe laquelle des places qu'il occupe ou qu'elle occupe, dominant ou dominée, elle est présente. Et c'est ce qui fait cette présence de l'humain. Donc, la deuxième conclusion, si j'ai le temps, je voudrais revenir sur les remarques faites en introduction sur l'humain ou non-humain, parce que j'ai envie d'écorcher, je ne peux pas m'en empêcher, la tour. Donc, ces manières d'imaginer le rapport humain et le non-humain dans la modernité occidentale et qui me paraît être la source d'une autre forme de violence, mais qui n'est pas sans lien avec le colonial. J'y vois une forme de violence épistémique, puisque l'esclavage est en effet indissociable du projet de la modernité. Et Achille Bembé, toujours, nous parle de démocratie esclavagiste pour camper ce paradoxe. Et ces démocraties esclavagistes qui naissent aux Amériques, où l'esclavage a été rendu compatible avec la première constitution américaine. Et c'est à cette modernité que l'on attribue l'invention du grand partage entre nature et culture. Alors ce débat de l'humain, du non-humain, depuis plusieurs décennies, à peu près trois décennies, il est dominé donc par les figures de Latour et d'Escola. Et on remet en cause ce grand partage en le considérant comme le produit historique de la civilisation occidentale et qui remet en cause sa vocation universelle de compréhension de toutes les cultures. Tout le monde est à peu près convaincu aujourd'hui que la logique occidentale aurait construit son entendement en s'arrogeant le principe d'accéder à la réalité objective des comportements humains sur la base de cette rationalité capable de discerner l'humain et le non-humain. Donc, c'est comme un allant de soi depuis Descola et Latour que l'opposition nature-culture ne fait plus du tout sens et elle relève d'une pure convention sociale. Alors ces deux auteurs phares, j'attaque un peu plus Latour que Descola, par-delà leurs divergences, ils se rejoignent quand même pour reconnaître à la modernité ou à la pensée naturaliste son caractère singulier, basé sur le principe de croyance forte en une nature pure, capable d'être saisie hors de l'intervention humaine. Si je soulève ce débat, c'est donc que je vous le disais parce que je voulais écorcher Latour et signaler les insatisfactions que révèle cette théorisation dès que ce débat est mis en rapport avec la conception coloniale de l'humain animalisé. Car autant chez Descola que chez Latour, le trajet pour en mettre en cause ce grand partage, cette porosité entre nature et culture, consiste toujours à envisager comment l'humain déborde sur la nature, fusionne avec elle, devient un produit hybride, le maître mot de ces théories, l'hybridité, par des trajets différents. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit bien de comprendre qu'il existe une porosité des frontières de l'humain et du non-humain, que la modernité s'évertuerait à camoufler, mais sans pour autant envisager qu'à l'intérieur même du monde humain, imaginer si épuré par la modernité, il y ait pu avoir des processus de déshumanisation profonde. Et donc, à la suite de la scène sur cette animalisation en contexte esclavagiste, je dirais que la modernité a historiquement rendu fluctuant la différenciation de l'humain, qu'elle a créé des sous-humanités, mais surtout bien au-delà, parce que des sous-humanités, il en parle un petit peu, Latour. Elle a surtout imaginé des processus et des techniques d'animalisation de l'humain. Et le paradigme fondamental dont parle Latour, c'est-à-dire l'opposition radicale de l'humain et du non-humain, n'a jamais été l'objet d'un principe de croyance rigide et aveuglant de la part des modernes, il a plutôt donné lieu à des variations très nettes qui font évoluer le curseur de l'humain selon des rapports de domination d'une rare violence auquel le débat actuel nature-culture semble au final accorder bien peu d'importance, pour ne pas dire qu'il ignore totalement. Car il faut bien constater que la situation coloniale et celle de la violence qu'elle a générée sont absentes, totalement absentes de ces conceptions, là où elles pourraient nous montrer justement que le grand partage de la modernité, en raison des rapports de pouvoir, ne correspond pas à la rupture nette qu'il est censé établir entre nature et société. Ce partage a plutôt été plié aux impératifs de la domination, ici dans le contexte colonial, celui de l'imaginaire racial, qui se traduit par le refoulement des humanités dans le non-humain. Et on rejoint la notion de plantationocène, qui nous ramène, là on a une spécialiste pour nous dire que c'est dans la plantation que naît ce fameux anthropocène et qui s'appelle le plantationocène. Avec cet humain refoulé dans le non-humain, c'est donc le château de cartes, je trouve, de ces interprétations qui s'écroulent, car on peut comment pouvoir affirmer le principe de croyance absolue de la pensée occidentale ou de l'imaginaire occidental en un ordre parfaitement distribué entre humains et non-humains, si cette pensée développe en même temps la certitude que certains humains sont des animaux. Penser les imaginaires, les systèmes symboliques, tous les réseaux de signification qui sont le produit de l'imaginaire humain, c'est forcément revenir à ces rapports de pouvoir, envisager comment les représentations contraignent, disciplinent et oppressent les sujets au moyen de techniques de violence extrême. C'est forcément adopter une posture qui ne peut ignorer la violence en contexte colonial, car c'est d'elle que découlent les principes mêmes de la rationalité moderne et de ses paradoxes structurels. Et je vous remercie.